tout ce qui ici fout le camp un peu, et qu'on voit foutre le camp. Il y a plein de choses qui sont vraiment saccagées. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de sauver tout ça. Voilà. Mais par contre, ma propre personne ne fait que passer, et je ne veux pas être, si tu veux, mis en valeur. Qu'on mette en valeur la pierre, les maisons, la beauté des paysages, aussi le fait qu'il y ait des gens qui habitent, tout simplement. On est dans un pays qui est... On n'est pas dans un pays qui est vide. C'est pas uniquement quelque chose de mort, quoi. Il y a des gens qui veulent vivre, habiter, avoir un métier, et qui sont très divers, très variés. Ça m'intéresse.
Patrick, comment tu as connu Marc Dombre ?
Comment j'ai connu Marc Dombre ? Je l'ai croisé parce que je venais beaucoup à Saint-Germain-de-Calberte à un moment donné. Et il fait partie un peu des personnalités qui sont arrivées ici il y a quelques dizaines d'années, on va dire.
C'est un néo ?
Je crois que c'est un néo, mais à vrai dire, ouais. J'en suis pas certain. Je lui ai jamais posé cette question. Il a l'air d'un néo, en tout cas.
Bon,
il ressemble, il a c'est tout à fait le...
C'est quoi quelqu'un qui a l'air d'un néo ?
C'est peut-être de la pudeur, j'en sais rien, hein. Mais j'aime pas qu'on parle de moi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est dans ce que j'ai fait toujours, depuis qu'on est ici. J'étais passionné par ce pays, et quand on est arrivé avec ma femme ici, j'ai plus envie de partir. Et on n'en a plus bougé. Alors qu'avant, j'avais un peu la bougeotte.
Bonjour Marc.
Bonjour.
Bernard. Alors tu habites là.
J'habite
Tu es né ici, non ?
Non, pas du tout. Non, moi j'ai passé ma jeunesse, mon enfance et ma jeunesse dans l'Aveyron. Et puis avec ma femme et mon fils, on est venu s'installer dans les Cévennes, donc dans les années 74, quoi. Et puis cette maison, on l'a achetée et restaurée en 87 pour pouvoir y habiter.
Ouais.
Et donc, voilà, on habite là depuis 87.
Ouais.
Voilà. Et puis, c'est typique vraiment de l'architecture... Les vallées cévenoles, quoi.
Allons-y.
Ici, on peut y aller de partout. Tu vois, par exemple, là, on est le long de la route. Le rocher, il a été taillé à la main. Tu vois la trace des outils qui ont taillé le schiste dans ces endroits-là. Tu vois ici ces petites marques qui sont... ancré dans le schiste.
Au burin, quoi.
Ils ont tout fait au burin, à la massette, ou avec des engins qu'ils avaient à l'époque, des petites pioches, enfin, et qui devaient forger et affûter au fur et à mesure pour pouvoir attaquer le rocher. Et puis, avec les résidus du rocher, ils bâtissaient des murs. Ils créaient des pierres, des petites pierres, des grandes pierres, enfin un peu de tout, et ça leur permettait de bâtir. Mm. Et c'est comme ça que, par étages successifs, ils ont monté les bancelles, les terrasses, les fameuses terrasses qu'on appelle ici des bancelles ou des faïsses. Voilà. Et donc là, tu vois, la maison, elle est assise sur un rocher qui a été taillé à la main et qu'on retrouve à l'intérieur, à plusieurs endroits. Et ensuite, si on monte au-dessus, on voit tous les aménagements de terrasses, les aménagements de béales, il y en a plusieurs. Bon, il n'y a plus que celui-là qui sert, mais il y en avait un à tous les niveaux. Parce qu'à tous les niveaux, il fallait pouvoir irriguer un jardin ou bien une...
Même une prairie.
Une prairie, voilà, tout ça. Hein, c'était... Ce qui est important ici, c'est de bien gérer l'eau. C'est-à-dire que quand il y a des épisodes cévenols, quand il pleut très fort, il faut canaliser.
Ouais.
Il faut faire attention, quoi. Si tu ne fais rien, tu peux avoir des dégâts considérables en quelques années. C'est ce qui fait que, par exemple, une maison comme la nôtre, ici, c'est pas une résidence secondaire, quoi. Si t'es pas là un jour où il y a un épisode cévenol, il te faut avoir un copain qui vienne ici et qui surveille, quoi.
Ouais, ouais.
Des fois que, parce que tu peux avoir un effondrement, tu peux, et j'en ai eu plusieurs fois, des dégâts importants, quoi.
Ouais.
Donc c'est pas de tout repos, c'est magnifique, mais
c'est pas donné pour toujours.
C'est pas donné pour tout le temps, quoi.
Ouais. Ça se mérite.
Ouais, ça se mérite.
Ouais, ça se mérite.
Ouais, ouais. Je dirais que au tout début qu'on est arrivé ici, moi ces épisodes cévenols, ça me fascinait parce que c'était d'une telle violence et d'une telle intensité que il y avait un côté. C'était scotché, c'était fabuleux, quoi, c'était magnifique. Et maintenant que j'habite un peu au milieu des eaux, hein, c'est-à-dire que d'un côté j'ai un torrent qui est là, qui est le torrent où le Béal est épuisé, donc c'est un torrent pérenne, hein, qui coule tout le temps, mais qui est impétueux au moment des épisodes cévenols. Et puis de l'autre côté de la maison, juste là, contre la maison, il y a un torrent de crue.
D'accord,
qui ne coule que quand il pleut fort.
Une sorte de déversoir.
Oui. Alors il va couler 10 fois dans l'année, mais quand il coule, ça donne. Tu vois, tu gardes pas ta bagnole là où j'ai garé la mienne, là maintenant.
Ouais,
hein. Tu la mets plus loin parce qu'elle risque de se faire caillasser.
Sévère,
complet, quoi.
Sévère.
Voilà. Donc, si tu veux, c'est vraiment une zone qui est gérée et qu'il faut de temps en temps arranger pour pouvoir la maîtriser. Quoi.
Ouais, bien sûr.
Bon, on va se le boire, ce café.
C'est une nature qui s'apprivoise, qui se vit, quoi. On n'est pas en contemplation ici.
Non. Bon, on peut contempler aussi.
Oui, enfin bon.
Des moments.
Enfin, mais pas que, voilà.
On n'en a pas beaucoup de temps.
Il y a 4 ans, au printemps, je crois, il y avait eu l'inauguration du pont de Chaldecoste. Un pont qui a une particularité, mais peut-être que...
La particularité, c'est que actuellement les ponts, on les fait avec du béton. Partout. C'est-à-dire, il y a quelquefois des pierres pour habiller, pour donner un bon look à un pont. Mais en général, on met du béton. Et ça, c'est depuis les années... Depuis la fin de la guerre, hein, c'est vraiment l'envahissement du béton un peu partout, parce que aussi c'est une facilité et une résistance technique qui est vraiment éprouvée. Mais par contre, un des problèmes qu'il y a, c'est qu'on a peu à peu, au cours des ans, perdu les savoir-faire autour de la construction en pierre. Je ne parle pas de pierre sèche uniquement, là.
Parce qu'on va y aller.
Puisque là, justement, c'est un pont qui est construit en pierre maçonnée, c'est-à-dire avec un mortier de chaux. Alors, la pierre sèche, il faut bien situer les choses. La pierre sèche, c'est quoi ? C'est un assemblage de pierres sans aucun liant. C'est-à-dire, il n'y a ni sable et ciment, ni sable et chaux, ni terre. Tu ne fais que assembler les pierres, les bloquer entre elles, les coincer entre elles de manière à ce qu'elles ne bougent pas. Donc il y a un savoir-faire là-dessus, dont on reparlera si tu veux en visitant les Bancelles. Je t'expliquerai un peu comment ça fonctionne. Et ce savoir-faire est bien particulier pour soutenir notamment les murs de terrasse, les Bancelles. Parce que ça présente un gros avantage qu'on a redécouvert après l'envahissement du béton qu'on a connu après la guerre, c'est que c'est un des ouvrages qui sont drainants, filtrants. Alors que un mur en pierre sèche pour une terrasse, quand il est maçonné avec du ciment ou de la chaux, ne laisse pas filtrer l'eau.
Il est étanche.
Voilà. Donc il y a une accumulation hydrique à l'intérieur des terrasses qui est tellement forte par moment, au moment des épisodes, que ça finit par exploser le mur, même s'il est lié avec du ciment. Or, les murs en pierre sèche, eux, ils vont laisser passer l'eau au fur et à mesure qu'il pleut. Même de manière torrentielle, ils vont laisser passer l'eau qui va filtrer entre les pierres et qui ne vont pas bouger pour autant. Ils vont quelquefois, quand il y en a trop ou quand c'est des vieux murs, ils vont se déformer un peu, mais ils resteront. Alors que le mur en béton banché ou en pierre maçonnée au ciment, ils vont finir par se renverser, comme des crêpes.
Premier avantage de la pierre sèche, c'est
le
drainage.
Filtrage et drainage.
On va faire une petite pause.
On va se le boire, le café. Hein.
On va se boire le café.
Toi, quand tu es arrivé ici, ton projet, c'était déjà celui-là, de travailler la pierre sèche, ou c'est venu comme ça, en étant ici, et parce qu'il fallait remonter des murs, etc. Comment...
Ah non, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Comment dire ? Moi, je viens de cette période de 68, et donc j'étais un des militants 68-arts de l'époque, hein, quand j'étais jeune. Et il y a eu, je passe sur les détails, mais il y a eu un moment où, avec ma femme, on habitait à Montpellier, au tout début qu'on était ensemble, et... j'avais quitté les études, la fac.
Où tu faisais quoi, si c'est pas indiscret ?
Où j'étais en histoire et géo.
D'accord.
Arrivé en fac, je ne savais pas du tout ce que je ferais. J'étais un révolté. J'ai fait partie des gens qui ont même réussi à louper le bac en 68.
Ça, c'est une performance. Alors là, on a affaire à quelqu'un d'exceptionnel.
C'était presque... ça me plaisait pas. À l'époque aussi, il faut penser à un truc, c'est que la majorité, c'était à 21 ans, c'était pas à 18 ans, et on était sous l'autorité de ces vieux. Et moi, on me disait, non, mais tu passes ton bac, point. Mon frère, lui, avait été matheux, etc., il avait eu très tôt son bac et avec des bons résultats, moi, il fallait que je fasse des maths aussi, alors que je n'avais rien à cirer. Et donc, on m'imposait quelque chose que je ne voulais pas. Et donc, j'ai soigneusement loupé mon bac en juin 68. On m'a envoyé dans une boîte à bac pour vraiment que je l'aie en septembre au repêchage. Et j'ai absolument rien foutu et fait tout ce qu'il fallait pour ne pas l'avoir. J'avais pas envie, quoi. C'est tout. J'étais dans un rejet complet, quoi. Et donc, évidemment, après, je me suis retrouvé sans bac. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es quand même encore mineur et on t'oblige à suivre tes études. Alors là, mes parents ont accepté à ce moment-là que je passe en philo. Et l'année d'après, j'ai eu mon bac. J'ai fini par avoir mon bac en philo. Puis je suis allé faire des études d'histoire et géo. Je suis resté pendant 2 ans. Et puis dès que j'ai eu 21 ans... Mais le lendemain même, je suis allé à l'Agence pour l'emploi, à Montpellier.
D'accord.
Et j'ai demandé du boulot.
Et dans quel secteur ?
Je m'en foutais.
C'est marrant.
Je m'en foutais. À la NPE, ils me font remplir des papiers. Ils me disent, écoutez, on vous donne 2 adresses, mais on vous prévient, c'est dans le bâtiment. Moi, j'étais en 68 art éprouvé. Le bâtiment, ça ne me gênait pas. Le petit prolétariat ne me gênait pas du tout, au contraire, hein, ça m'attirait plus qu'autre chose. Et donc, Il m'envoie dans... Il me donne deux adresses, et la première a été la bonne. J'ai dit, ça y est, je...
Je suis autonome.
Je suis autonome, j'ai plus besoin de sous, je suis heureux.
Cette aventure-là autour de la pierre sèche, est-ce qu'elle est propre aux Cévennes ou ça s'est produit en même temps ailleurs dans le monde, en France ou ailleurs ?
En fait, il y a des décalages, bien sûr. Mais en France, ça a commencé à germer dans les années 90. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait quand même pas mal d'années après la guerre... d'usage de béton, d'usage intempestif de béton, pour dire, pour qu'il y en ait qui disent un jour, bon, ben, ça va le béton pour certaines choses, mais peut-être que pour d'autres, c'est pas bien efficace. Et ce dont je parlais tout à l'heure de drainage de sol, etc., il y a de plus en plus de gens qui ont dit, mais faut arrêter de faire des murs avec du ciment. Il faut alors, se mettre...
J'ai envie de te demander, mais quelle est donc la limite d'utilisation de la pierre sèche ?
Bon, mais t'aurais du mal à faire la tour Montparnasse en pierre sèche, par exemple.
Mais pour autant, est-ce que c'est 2 mètres, 3 mais, mètres, 4
mètres. Mais tu as des ouvrages. Un mur en pierre sèche peut avoir une bonne cohérence, une bonne solidité, à partir du moment où il est bien dimensionné. Et ça va varier selon sa hauteur, la hauteur de l'ouvrage. Hein? Selon aussi le type de matériaux que tu utilises. Tu as des matériaux qui sont plus friables que d'autres, plus résistants que d'autres. Tu vois, il y a tout ça qui intervient. Et d'ailleurs, on a beaucoup travaillé là-dessus avec des ingénieurs, justement, pour savoir comment dimensionner un mur en fonction de sa hauteur. Voilà. Et donc, ce qui est courant dans les Cévennes que tu vois partout, c'est des murs qui vont de, mettons, de 50 cm jusqu'à 2,50 m, 3 m.
Et puis, de hauteur.
De hauteur. Mmh. Et puis, tu en as beaucoup aussi qui font 4 m. Et puis, tu en as quelques-uns, alors plus haut, qui vont aller jusqu'à 5 m, 6 m, 7 m. Tu vois, ça existe. Mmh. Mais moi, dans ma pratique, j'en ai fait de 4 m. Pas mal. Mais après, c'est surtout des murs allant de 1 mètre à 3,50 mètres. Quoi.
D'accord. Donc on peut construire une maison. Une maison individuelle.
Ça n'a aucun intérêt.
Ah, pourquoi ?
Parce que une maison individuelle, tu as besoin de l'isoler. Mmh. Et on s'en aperçoit de plus en plus. L'isolation, c'est vachement important. Mmh. À la fois pour chauffer ou pour te protéger de trop de chaleur. Mmh. Hein ? Donc, une maison, en fait, une maison en pierre, tu vas l'enduire. Les anciens, quand ils faisaient leur maison en pierre, ils ne la faisaient pas en pierre sèche. Ils la faisaient avec un mortier de chaux. Mmh. Et s'ils avaient les moyens, ils faisaient un enduit extérieur et intérieur. Par contre, exception, c'est pour certains ouvrages qui ont besoin d'être très bien ventilés, notamment beaucoup d'ouvrages agricoles, que sont les granges, les bergeries, les étables, les clèdes, hein, les séchoirs à châtaignes, tout ça. Évidemment, ça a besoin d'être ventilé, donc tu les faisais en pierre sèche. Mm-hmm. Je vous montrerai à côté, j'ai une grange et j'ai une clède, c'est tout en pierre sèche.
D'accord.
Alors que cette maison ici, elle était faite avec un mortier de chaux. Alors, dans des zones, dans les vallées cévenoles schisteuses, c'était difficile de se procurer de la chaux. Mmh. Alors, tu as des zones très loin de tout, où même les maisons étaient faites en pierre sèche. Mmh. Mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller à Bar des Cévennes ou à Saint-Jean-du-Gard ou dans un endroit où il y avait un four à chaux, chercher de la chaux pour avoir un liant.
Mmh. D'accord.
Donc, actuellement... on utilise la pierre sèche pour des maisons d'habitation pour du décor, en parement. Mais la pierre sèche en tant que telle a beaucoup plus de valeur pour des aménagements extérieurs que sont les murs de soutènement, les murets de routes, de chemins, etc., qui, eux, voient passer filtrer de l'eau. D'accord. Alors que la maison, elle est en élévation. Elle est hors de l'eau. Donc, à la limite, les bases de ta maison qui vont devoir conduire de l'eau, tu les feras en pierre sèche. Mais au-dessus, tu vas dans toute la partie habitable, tu vas utiliser de la chaux.
Donc, on ne perd pas de vue ce qu'on disait au début de l'entretien, c'est que la construction en pierre sèche est liée à la nécessité de drainer. C'est vraiment l'élément qu'il faut retenir dans le principal...
Oui, je dirais que c'est la première motivation qui va inciter à la fois un propriétaire, mais aussi le maçon, à bâtir en pierre sèche.
D'accord.
Après, il y a plein d'autres atouts pour la pierre sèche. Sur le plan écologique et biodiversité, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'on va réutiliser les pierres d'un vieux mur pour rebâtir le suivant, parce qu'il s'est cassé la figure, mais on va recycler les pierres éternellement. Même les pierres qui sont un peu brisées, un peu cassées, on va les recycler à l'intérieur du mur. Donc, il y a un côté écologique magnifique, c'est que non seulement on n'utilise pas de sable et de ciment qu'on va faire venir de je ne sais où, mais on utilise la pierre sur place en recyclant les matériaux. Alors ensuite, il faut ajouter le côté esthétique. On est fatigué de voir des murs en béton, en ciment qui vieillissent très mal, qui sont fissurés, fendus de partout, etc. Alors qu'un mur en pierre sèche, s'il bouge un peu, ça ne se voit pas. Il y a un côté naturel dans le comportement d'un mur en pierre sèche, dans son environnement, sa construction. Et puis, il y a aussi le côté patrimonial, qui est très important pour des régions comme la Lozère, par exemple, qui a un patrimoine fabuleux. Il faut arriver à le promouvoir, le mettre en valeur et le conserver. Donc, pour ça, il faut conserver des savoir-faire qui étaient en train de disparaître.
Tu as arrêté ton activité professionnelle ou tu continues
Alors moi, j'ai arrêté parce que je suis à la retraite donc depuis maintenant 4 ans.
Tu transmets
Je continue en fait d'agir au sein de pas mal d'entités, en priorité avec les artisans bâtisseurs en pierre sèche.
On en dit deux mots là, c'est ou quatre.
Mais pour dire, moi, quand j'ai pris ma retraite, j'ai complètement arrêté le côté travail sur chantier et je me suis entièrement consacré plutôt à aider au développement de la pierre sèche par le biais des ABPS, mais aussi. Je m'occupe pas mal, alors c'est un autre secteur de mon activité, mais qui va avec. J'ai aussi travaillé beaucoup dans la couverture, la lauze. Et donc je continue là-dessus à essayer d'initier et de travailler à la création d'une filière autour... Enfin, la création, elle existe, mais plutôt à la structuration d'une filière autour de la lauze de schiste. Donc je bosse pas mal là-dessus, avec la chambre de métier. On en reparlera après, si tu veux. Une lauze, c'est une plaque qui va servir de couverture à une toiture.
Et qui est en quelle sorte de pierre ?
Alors, elle peut être en schiste, comme elle peut être en calcaire, comme elle peut être en gneiss. C'est différents composants géologiques.
D'accord.
Et qui étaient à l'époque utilisés selon la région pour les constructions. Donc, en fait, il faut se dire que, pour résumer, jusqu'au Moyen-Âge et jusque même au XVIe, XVIIe, les toitures dans les villages et dans les masses étaient souvent couvertes de chaume. Et puis, en fait, la lauze est apparue à partir du XVIe, XVIIe, surtout, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gisements intéressants et que c'était beaucoup plus durable
qu'une toiture en chaume, même si ça a beaucoup de valeur et beaucoup de beauté, et qu'il faut aussi sauvegarder cette filière, parce que c'est un savoir-faire rare et c'est dommage de le perdre. Mais c'est vrai que ça a moins de durabilité. Une toiture bien faite en loz peut durer 200 ans sans aucun problème.
Oui, alors
si elle est entretenue, c'est-à-dire il y a de temps en temps, il y a peut-être certains travaux à faire, d'étanchéité ou autre, mais une loz à changer ou une étanchéité de souche ou un faîtage à refaire, évidemment. Mais un toit bien fait en loz peut durer 200 ans si les lozes sont de bonne qualité.
Ouais.
Donc on s'est aperçu de ça au moment de la Renaissance. Et un exemple en Lozère, c'est Marvejols, Florac, Mende, qui sont couverts de loz. Et puis sur l'Écosse calcaire, c'était de la loz calcaire. Alors que dans les vallées, c'était plutôt de la loz de schiste. Et il y avait des carrières qui s'ouvraient un peu partout pour produire le matériau et l'acheminer vers les maisons qui étaient en construction. Voilà. Et il y a eu un moment où vraiment, il était temps dans les années 70 de dire arrêtez avec la tuile en ciment. La loz existe. Il y a encore des bassins de production importants et il faut les utiliser. Et il y a encore des savoir-faire. Il faut les employer aussi, il ne faut pas les perdre. Moi, j'arrête pas de repenser aux gens qui ont bâti à une époque où, il y avait, dans les siècles passés, quoi, à une époque où la vie était très difficile, beaucoup plus compliquée que maintenant pour nous, sur le plan, je dirais, matériel. Et comment ils ont bâti ces murs pour retenir quelques mètres carrés de terrain et cultiver, c'est quelque chose de fabuleux. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné ici.
Il faut rappeler que dans les Cévennes, les terrasses, les terrasses, c'est quoi 10 mètres sur 15, sur 20, c'est des fois beaucoup plus petit.
Ah, mais je te montrerai au-dessus de la maison.
C'est rien du tout.
Il y en a un qui fait 5 mètres carrés, je crois.
Donc le mur de soutènement avait un rôle. C'était pas esthétique.
C'était vivrier. Survivre.
Survivre, voilà, c'est ça.
Vivre, survivre. C'était vivrier. C'est-à-dire que la famille s'agrandissait. Oui, mais d'accord, mais il faut de la terre. Donc, allez, tout le monde, dès que tu avais 5 minutes, essayer d'agrandir ton domaine et tu le gagnais sur le rocher.
Et puis il fallait l'entretenir, comme tu disais tout à l'heure, tous les ans, dès qu'il y avait une pluie un peu dévastatrice, il fallait s'atteler à reconstruire ce qui s'était cassé la figure.
Bien sûr.
Mais on ne raconte pas que les manouvriers cévenols, quand ils allaient travailler dans la plaine à Nîmes ou à Alès ou Uzès, ils étaient payés en terre. J'avais entendu parler de ça. La légende dit que il remontait dans les Cévennes à la fin de la saison agricole avec des sacs de terre.
Ouais, mais
c'est une légende ou c'est un symbole. C'est peut-être
un symbole et un peu une légende. Imagine que tu ramènes de la terre sur ton dos. Imagine que tu sois bien costaud, que tu en ramènes 50 kilos.
Oui, c'est déjà
venant de la plaine.
Oui, c'est rien, 50 kilos de terre.
Eh bien, 50 kilos de terre, tu la déverses dans ton jardin.
Il n'y a rien.
Alors, en fait, moi, je le vois ici pour avoir quand même bossé beaucoup sur les bancelles. La terre, elle vient d'en haut par les infiltrations, par les ravinements, et en fait,
en
créant un mur en pierre, tu retiens la terre qui vient d'elle-même.
Mais j'aime bien cette légende parce que, même si c'en est une, on se la garde parce que elle est signifiante de la dureté et de la rareté de la terre.
Et aussi, quand tu refais un mur, tu as tendance, tu vois, il y a une brèche par exemple dans un mur, tu as tendance à toute la terre que tu peux en travaillant à la main, toute la terre que tu peux, tu vas la renvoyer au-dessus pour la remettre sur la terrasse de dessus.
C'est pas ce qu'il faut faire. Ouais.
Ben si, tu le fais.
Oui.
Tu le fais. C'est un réflexe que tu as. Tu vois. Mais il y en a une partie que tu ne pourras pas renvoyer au-dessus et que tu garderas pour en dessous, que tu vas étaler en dessous. Mais évidemment, tu ne la balanceras pas, cette terre. Tu vas l'utiliser. Mais
Je ne crois pas que ce soit en allant chercher la terre dans la plaine qu'on a pu bâtir les bancelles Cévenol.
On se garde pour la... Pour la
non, l'aspect... parce que, si tu veux, le schiste qu'on a dans nos vallées ici, il y a plein de failles, il y a plein de zones de plus ou moins argileuses, plus ou moins... Et où il y a vraiment de la terre quoi, qui s'accumule dans des combes, dans des endroits. Et voilà, en général, l'homme, il trouvait la terre pas trop loin pour mettre derrière ses murs. Ce qui était plus compliqué, c'était d'amener l'eau. Tu vois. Mais n'empêche que là où l'homme bâtissait, c'était avant tout là où il y avait de la terre. C'était le fait d'avoir de la terre sur place... qui conditionnait la construction de murs. C'était pas l'eau. Si tu avais les deux, c'était au top. C'est-à-dire que tu as une source, et puis tu as de la terre, impeccable. Tu fais tes murs, tu peux arroser. Mais s'il n'y avait pas l'eau, et que tu avais un terrain à peu près plat, là, ça valait le coup de faire des murs. Prenez ici, très localement, un exemple comme le hameau de Vernet, qui est un très joli hameau, qui a été très bien conservé, aussi bien au niveau des murs en pierre que des toitures en lauze, maintenant il y a une adduction communale. Ok, mais avant, il n'y avait pas d'eau. Et chaque maison, elle avait sa citerne. Donc, l'eau du toit, tu la captais et tu la mettais dans une citerne creusée dans le rocher. Et tu l'économisais, parce qu'il ne fallait pas la gaspiller. Donc, en fait, ce qui conditionnait en premier l'installation de l'homme, c'était la terre. Et à Vernet, si tu vas à Vernet, tu vois qu'il y a un grand... Replat est un grand mot. Il y a une espèce de terre-plein incliné qui retient la terre. Et du coup, ils ont bâti les maisons en haut de ce terre-plein, sur le rocher, pour ne pas bouffer la terre, l'utiliser avec les maisons. Mais sur le rocher, par contre, ils ont encastré leur baraque sur le rocher au-dessus, et en dessous, tu as toutes les terres.
D'accord.
Et il y a un très bel exemple de préservation des terres par le cheminement de l'eau, qui sert en même temps... De chemin de circulation entre les maisons. Et quand il pleut trop fort, c'est un torrent qui passe sur le côté, mais qui protège les terres de dessous, qui ne va pas inonder les terres de dessous. Parce que l'eau, elle est nécessaire, mais en même temps, elle peut être dévastatrice.
Ce mode de construction, de soutènement, c'est sur tous les continents. Je veux dire, en Asie...
Ah oui, mais c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. C'est que...
En Europe du Nord,
les
murs en pierre sèche. Et j'imagine que tout ça s'est fait à peu près dans les mêmes périodes historiques.
C'est le néolithique. Voilà. Le mot pierre, il est dans le terme néolithique. Donc c'est 3-4 000 ans avant Jésus-Christ que ça a démarré, quoi. Alors au départ, je crois que tout simplement, l'homme s'est aperçu que quand il y avait des pierres accumulées par la nature à un endroit, la terre qui coulait, elle restait derrière. Je crois que ça a été un élément déclencheur, c'est l'observation de l'homme sur la nature qui l'entourait. Et il s'est dit, mais si moi je mets des pierres à cet endroit-là, la terre, elle va rester. Je parlerai plutôt de l'époque où l'homme est devenu sédentaire. Quand il était chasseur-cueilleur, il s'en foutait pas mal. Il utilisait la pierre plutôt pour des tombeaux que pour autre chose. Donc les premiers monuments néolithiques, c'est plutôt des tombeaux. Mais puis après, dès que l'homme s'est sédentarisé, à ce moment-là, il a eu besoin de terre et il a besoin... de la retenir.
De
retenir l'eau avec tous les... Et c'est peu à peu, à la même époque, que en Amérique du Sud, le Maghreb, en Inde, un peu partout dans le monde, à la même époque exactement, comme quoi il y a un développement du cerveau et il y a quelque chose à expliquer à ce niveau-là qui est assez fabuleux. C'est-à-dire que ces hommes ne se fréquentaient pas, ne se voyaient pas. On ne savait pas aller encore pour aller voir comment ils faisaient leurs murs pourtant... à Cusco. Il y a toute une civilisation, qui s'est développée, fabuleuse, et qui savait assembler les pierres de manière incroyable. Et donc voilà, il y a eu ce développement peu à peu qui est venu de l'observation. Et après, c'est des métiers ancestraux qui peu à peu se sont perfectionnés et qui... C'est ça qui est incroyable. Encore maintenant, se perfectionne. Mmh, ouais. C'est-à-dire que maintenant, en 2017, on construit mieux que ce qu'on construisait en 1990. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle quand je bossais avec des paysans sur des murs, au tout début où j'apprenais la pierre sèche, donc, je demandais, moi, j'étais toujours à poser des questions, je voulais comprendre. Et pourquoi tu fais ça comme ça et comme ça ? Et tais-toi, empile. Alors, on disait, il fallait que j'empile des pierres. Alors, t'empiles des pierres, plus ou moins bien. Donc, tu vois, c'était... Je vois les premiers trucs que j'ai faits, c'est pas très joli. Et on empilait, on empilait. Et puis, quand on a créé l'association, alors ça a été une des premières actions de notre association. Une fois qu'on a eu créé la charte et que les ABPS sont nés, il a fallu parler des ABPS de ce qu'on voulait faire. Et c'était vachement prétentieux à l'époque. On disait qu'un jour, on arriverait à créer une école.
Voilà.
C'est dans notre charte initiale la création d'une école de la pierre sèche.
D'accord.
C'était vachement prétentieux.
Ambitieux, on va dire.
Ambitieux.
Oui, ambitieux. Prétentieux, non.
Non, c'était ambitieux.
Ambitieux. Et ça, c'était en 2002 qu'on le disait.
D'accord.
Et alors cette école ?
Et cette école, elle est née dans les années 2010.
Et elle existe ?
Et elle existe.
Et les diplômes qu'elle délivre sont des diplômes nationaux ?
Sont des diplômes nationaux.
Bravo.
Et c'est là.
Et donc, il y a eu une montée de tout ça, tu vois. Mais alors, pour pas perdre le fil de tout à l'heure, quand je disais que il y avait des progrès aussi, c'est que on est allé faire un peu les premières années. On allait dans les villages, partout où on nous demandait, les salons, etc. Et on démontrait la pierre sèche. C'est-à-dire, on amenait un camion de pierre, on bâtissait des pierres quelque part sur une place de village, au cours d'une fête, etc. Mm-hmm. Et les gens regardaient comment on faisait, etc. Et du coup, on se retrouvait, nous, entre plusieurs maçons des vallées voisines. Et alors, on confrontait nos manières de faire. Nos manières d'être, nos manières de faire. Ah, toi, tu fais comme ça. Ah, toi, tu as tel outil. Ah, et toi, c'est plutôt le granit. Toi, c'est plutôt le schiste. Toi, c'est plutôt le calcaire. Tu vois, on s'est mis à échanger entre nous. Et aussi, on s'est mis à travailler en 2003 ou 2004 à faire des premiers murs expérimentaux pour tester leur résistance avec l'École nationale des travaux publics de l'État. Et là-dessus, on a travaillé avec les Muraillers de Provence, qui est une association qui s'est créée en même temps que la nôtre, et avec qui on a eu pas mal d'échanges à une époque. Et donc, il y a eu ces premiers murs expérimentaux qui ont été commandés par l'École des travaux publics de l'État, parce qu'il y avait un passionné de pierre sèche parmi les ingénieurs, et qui voulait essayer de comprendre quelle était la mécanique interne d'un mur. Et alors, ils nous en parlaient. Et nous, on a découvert plein de choses. Mmh. Et du coup, on n'a plus la même approche que ce qu'on avait au tout début où on bâtissait des pierres. C'est-à-dire, on a une manière beaucoup plus scientifique de bâtir, alors qu'avant, c'était uniquement la répétition de gestes ancestraux. Sans trop théoriser et comprendre le pourquoi du comment. On savait que c'était drainant, filtrant et solide, puisqu'il y avait des murs qui avaient 200 ans.
Après, il faut le démontrer.
Mais après, il faut le démontrer. Et après, du coup, on s'est mis à corriger certains de nos gestes et à ne plus procéder de la même manière. Donc, comme quoi, même un vieux métier ancestral peut encore évoluer.
on a fait des progrès aussi au niveau de la manière de remuer les pierres. Hein, c'est-à-dire que au tout début, on faisait tout à la main. Hein. Moi, je me rappelle au tout début de mes Cévennes, les mini-pales n'existaient pas. Les bobcats, tous ces trucs-là, les petits engins à chenilles, comme il y a maintenant, ça n'existait pas. On faisait tout à la main. Et maintenant, il y a plein de murs sur lesquels on peut intervenir avec de la petite mécanisation qui est géniale pour ne pas forcer, pour ne pas s'esquinter le dos, etc. Il y a ça aussi qui est intervenu, mais dans les 20 dernières années. C'est pas vieux.
Et donc, il a augmenté les possibilités d'intervenir dans des coins reculés, plus ou moins inaccessibles. Voilà.
Et aussi, de pratiquer un métier qui ne soit pas trop... pour ne pas tuer la bête, quoi. S'esquinter, quoi, tout simplement. On ne bâtit vraiment plus du tout de la même manière que 20 ans en arrière, avant de créer l'association. Vous vous rendez compte?
Et cette association, aujourd'hui, elle est vivante,
ça a été...
Et tu en es toujours le président?
Ça a été une montée en flèche? Non. Il y a, dans nos statuts, il est écrit que le président doit être en exercice. Un artisan en exercice. D'accord. Très important pour éviter que quelqu'un capte... un pouvoir et le garde tout le temps et bloque les autres. Et donc moi, dès que j'ai pris ma retraite il y a 4 ans, j'ai démissionné et il y a un jeune qui a pris ma place et j'en suis bien content. Alors ils ont tenu à ce que je reste vice-président. Bon, moi, ce qui m'importait, c'est que ça continue. Donc je continue. C'est-à-dire que j'ai plus le rôle décisionnel qu'il a. Et moi, je trouve que c'est très bien que ce soit un jeune qui ait ce rôle. Et par contre, moi, je viens en appoint sur tout ce dont il y a besoin. Et partout où il y a besoin que j'intervienne sur un truc, ben, j'arrive, je suis là. C'est plus comme ça que je le vois. Et aussi, bon, il y a physiquement, il y a quand même un moment où tu es obligé de te calmer un peu. Il y a des choses que tu ne peux plus faire, tu vois. Et tu peux expliquer beaucoup. Je vois, par exemple, quand j'interviens sur un stage, il y a plein de choses que je montre, que j'explique, etc. Puis il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Hein. Allez-y, les jeunes, vous les gueulez. Puis, hein, moi, je suis cassé, moi.
Et cette école donc d'artisans bâtisseurs en pierre sèche, elle est la seule en France actuellement ou il y en a d'autres
La seule que je connaisse. Hein.
D'accord.
Et je crois... Non, c'est la seule, oui.
Oui, c'est la seule.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Excuse-moi, elle est située où physiquement cette école?
Alors, elle est située à l'Espinasse. C'est donc sur un col.
C'est la commune de...
C'est sur la commune de Ventalon en Cévennes.
D'accord.
Voilà. Et alors, avant, on n'avait pas de lieu fixe. On était une école pour apprendre à bâtir des murs, mais c'était une école sans murs. Alors maintenant, en plus, on a des murs. Mais on a toujours tenu à garder un côté itinérant. Pour plusieurs raisons que je vais expliquer. Mais peut-être que d'abord, il faut que j'explique un peu la progression qu'il y a eu. Donc, comme je disais, il y a eu, dans les premières années, ce côté démonstration un peu partout, en Lozère et dans le Gard. Mm-hmm. Au départ, c'était une association qui était créée Gard-Lozère, les Cévennes gardoises et lozériennes, pas plus. Et... on faisait des démonstrations, on participait à ces campagnes de murs expérimentaux avec l'École nationale des travaux publics de l'État et avec deux autres associations que sont les Murailliers de Provence et la confrérie des bâtisseurs en pierre sèche de Nîmes. Et avec eux aussi, on a co-écrit un livre qui s'appelle « Les murs de soutènement en pierre sèche ». Et cet ouvrage a été publié en 2008 et il décrit l'art de bien faire. Et cet ouvrage comprend des abacs de dimensionnement de murs de soutènement. Et ces abacs, donc c'est des graphiques qui permettent de en introduisant certaines données que sont la hauteur du mur, l'inclinaison, le fruit qu'on appelle du mur, le type de pierre et tout un tas de critères comme ça, ça va nous donner quelle largeur à la base donner au mur qu'on va bâtir. Donc c'était donner une caution scientifique au mur pour donner confiance à la fois aux donneurs d'ordre, les prescripteurs, les assureurs, les experts, tout ça. C'était la première base à donner pour donner confiance en une filière naissante, qui n'avait pas encore acquis la confiance des pouvoirs publics pour être prescrite.
C'est la force de la preuve.
Voilà.
Tout à fait.
Alors, on se bat encore toujours pour ça. C'est-à-dire on n'a pas beaucoup de commandes venant des services de l'équipement, par exemple. Services de l'équipement, ils en sont encore au béton et ils ne veulent pas démordre de ça. Hein. On a beaucoup de mal de leur côté à percer. Mais bon, on désespère pas. Il y a quand même des endroits où on arrive à intervenir, quoi. Et donc voilà, ça a été une des premières choses qu'on a faites, ça a été ça. Et ensuite, nous, notre association, on avait vraiment le désir d'arriver à créer une école parce que on savait qu'on pouvait, parce que le marché de la pierre sèche se développait d'année en année. Et ça, on le sentait, on le voyait venir. Et une chose très intéressante qui a été faite en 2005, je crois, ça a été le CBE de Florac, Comité Bassin d'Emploi de Florac, qui a commandé une étude sur la pierre sèche dans les Cévennes et les besoins en formation autour de la pierre sèche en Cévennes. Et donc le CBE a chargé une fille qui s'appelle Cathy O'Neill, de mettre au point cette étude. Et elle a été tout de suite passionnée par notre association, la dynamique qui s'était créée autour de l'association et de tout ce qu'on faisait et tout. Et elle a pondu son rapport qui est très riche de plein de choses qu'elle a pu relever, hein, à la fois sur ce marché naissant et aussi sur les gens qui pratiquaient, pourquoi, comment, et ce que faisait l'association, etc. Et c'est sortant de cette étude qu'elle nous a dit, moi je travaillerai bien pour vous, quoi. Et il se trouve que on était très bénévoles et économes dans tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire que dès qu'une commune ou quelqu'un nous donnait de l'argent pour les démonstrations qu'on faisait, les petites conférences auxquelles on participait, tout ça, dès qu'on avait 3 sous, on les mettait dans une caisse, on n'y touchait pas. Et du coup, on a eu de quoi payer pendant les 6 premiers mois Cathy, qu'on a embauchée à plein temps, pour travailler pour nous et développer la filière. Mais aussi, évidemment, il fallait trouver du fric. Et nous, on en était infoutus. C'est-à-dire que c'est...
Oui, il fallait quelqu'un pour auto-financer.
Il fallait vraiment quelqu'un qui sache mener un peu des dossiers de gestion d'une association telle que la nôtre. Et ça, parmi nous, il n'y avait personne. C'est moi qui faisais les dossiers de demande de subvention. Et ça foirait presque chaque fois. Il manquait toujours quelque chose. Enfin, bon, c'était pas mon truc, quoi. Et puis, j'étais pris par mon boulot aussi. Et j'avais pas le temps, quoi. Et donc, c'est Cathy O'Neill qui a dit, on s'est mis d'accord sur un peu le but qu'on avait. Et c'est elle qui nous a aidés à créer des référentiels de formation, des formations expérimentales, des murs expérimentaux internes pour pouvoir créer une évaluation, donc un diplôme, etc., etc. Et donc tout ce travail d'ingénierie a commencé en 2006 Le guide de bonne pratique est sorti en 2008 et les premiers essais de notre référentiel, on a dû les faire aussi en 2008. Et ensuite, on a pu déposer le dossier pour obtenir un certificat de qualification professionnelle. Donc, c'est un diplôme de branche, de branche professionnelle, qui s'appelle ouvrier professionnel en pierre sèche de niveau 2. Et donc, ce premier diplôme a été agréé par l'organisme certificateur via la Fédération du bâtiment, qui est un des syndicats du bâtiment qui nous accompagnait depuis le début, a donné son agrément sur ce CQP et nous a chargé de procéder aux évaluations et à la création des jurys pour donner les premiers diplômes.
Autrement dit, vous n'avez pas inventé un travail, mais vous avez inventé un métier.
Et une méthode.
Et une méthode.
J'aurais une question quand même, ça veut dire que par exemple dans ce qu'on appelle les compagnons,
oui,
il n'existait rien dans ce domaine-là.
Alors les compagnons pratiquaient la pierre sèche dans certains CFA ou certains centres de compagnons sous forme de modules de formation. Mais jamais... C'était jamais une entité. C'est-à-dire que dans la formation de maçons, ils apprenaient toujours aux jeunes à faire de la pierre sèche. Par exemple, le centre de formation des compagnons de Nîmes, moi je me rappelle y être allé plus d'une fois... ils faisaient des petits modules de formation d'une semaine en général ou de quelques jours pour les jeunes maçons, de manière à ce qu'ils aient la connaissance et les notions de base pour pouvoir éventuellement répondre à une demande de...
Alors que là, vous avez développé une filière carrément, enfin c'est tout.
Ah ben là, on l'a créé.
Une spécialité.
On l'a créé. Ouais. On a créé la filière, alors... Quand je dis « on », ce n'est pas que les ABPS, parce que ce mouvement s'est développé un peu partout. C'est nous qui l'avons développé le plus haut sur le plan professionnel. Et sur le plan...
De la reconnaissance par la puissance publique.
Oui, et sur le plan du développement du marché. C'est-à-dire que pour nous, ce qui était important, dès le début, c'était à la fois d'agir sur... la fourniture du matériau, c'est-à-dire pouvoir obtenir dans les carrières pas trop loin de chez soi de la pierre à bâtir, parce que si tu n'as pas de pierre, tu ne feras pas des murs en pierre sèche. Pouvoir développer au niveau du marché, que ce soit des privés ou du public, de la commande, parce que ce n'est pas la peine de former des gens s'il n'y a pas de la commande. Et ensuite, pour pouvoir répondre à tout ça, avoir des gens formés. Donc c'était un peu ces trois pôles qui était important pour nous. C'était la fourniture, la formation, le marché. Ces trois trucs, il fallait absolument les développer. Et pour ça, il fallait développer en plus la communication. Donc, essayer de dire le plus possible partout, sous forme d'écrit, sous forme de participation à des congrès, à des...
Le savoir-faire et le faire savoir.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Tiens, je vais faire tel truc. Et puis tu te retrouves à un endroit et tu te mets à attaquer autre chose. Et allez, hop,
C'est parti. Tu nettoies un mur, tu répares des pierres qui foutent le camp à un endroit, tu tailles une vigne, tu changes de... Ça, c'est le bonheur qu'on a quand on a tout son temps et qu'on est à la retraite. Ouais. C'est le bon côté de la chose. Ouais. Et quand on a aussi la santé pour le faire aussi.
Ouais.
Alors voilà, tu
vois
le rocher.
Alors là, à 3-4 mètres au-dessus de nous, il y a sur le rocher une construction donc en pierre sèche.
Ouais.
Et j'imagine qu'il retient la terre. La terre est au-dessus.
Ouais, ouais.
D'accord.
C'est des bancelles.
C'est magnifique. On a l'impression d'avoir des murailles, d'être au pied de...
Et alors, en même temps, le rocher, tu vois...
Et ça épouse la forme du rocher, quoi.
C'est une carrière, le rocher. C'est-à-dire que tu vois les strates, les fissurations du rocher, et tu vois que l'homme s'est servi de ces strates pour bâtir au-dessus, quoi. Mmh. C'était pas compliqué pour lui. Il utilisait sur place ce qu'il créait.
Prenez ce qu'il...
Oui. Voilà. Donc elle est adossée sur le rocher avec des saignées qui sont faites le long du rocher pour écarter l'eau du
mur.
Du mur.
Ouais. Je vais te dire merci. Hein.
Bah, écoute, Pierre.
Ah si.
Quoi, hein, moi, je...
Ah si. Là c'est. On se dit au revoir.
Eh ben, au revoir.